Bonjour Annie et bonjour à tous les confinés. Je suis ravie de vous retrouver pour partager avec vous une nouvelle parenthèse philosophique. Et pour cette nouvelle parenthèse, aujourd'hui, c'est le troisième volet consacré à la philosophie et aux femmes. Après nous être demandé pourquoi les textes des femmes philosophes avaient si peu de place dans nos bibliothèques, dans l'enseignement, puis avoir il y a 2 semaines dressé le portrait de la philosophe Simone Weil, je vous invite aujourd'hui à voyager dans le temps grâce à l'histoire de la philo. Car nous allons nous intéresser à la place des femmes philosophes dans l'Antiquité grecque, ce qui nous fait remonter jusqu'à 600 ans avant notre ère. Parmi les questions que l'on peut se poser quand on aborde une nouvelle discipline, il y a quels en ont été les précurseurs, les premiers grands noms, celles et ceux dont la pensée a traversé les siècles et dont les écrits nous sont parvenus. Mais quand il est question plus spécifiquement de la philosophie et des femmes, la question se corse. Enfin, le problème, ce n'est pas tant la question que la réponse. Car au regard de l'histoire de la philosophie, communément transmises et enseignées, on pourrait même se demander si des femmes philosophes ont existé dans l'histoire de l'Antiquité. Annie, je ne sais pas si tu te fais une image d'une philosophe à l'Antiquité.
J'ai peur de botter en touche. Je devrais réviser avant de venir le lundi pour le croque-philo.
Non, mais simplement, est-ce que...
Oui.
On a des représentations de philosophes femmes ou est-ce qu'on a seulement la représentation du philosophe barbu
qui me déambule avec ses disciples?
Oui, voilà.
Bah, c'est vrai que je pense plutôt à lui quand je pense aux philosophes antiques. Je crois que je ne connais pas de...
Et effectivement, on se retrouve véritablement à ne pas avoir de représentation de femmes philosophes à l'Antiquité. Si nous nous demandons, par exemple, plus précisément, qui est considérée comme étant la première femme philosophe de l'histoire, eh bien, il y a de multiples réponses, qui semblent d'ailleurs parfois contradictoires. Et si les réponses sont multiples et contradictoires, c'est sans doute parce que chercher à répondre à cette question fait intervenir déjà un questionnement historique. L'histoire fait généralement débuter la philosophie avec Socrate. On nous apprend généralement que Socrate est un père philosophe, en oubliant par là même toute une tradition philosophique dite pré-socratique. Les programmes et les enseignements de la philosophie commencent tout juste à réhabiliter ces penseurs qui ont vécu avant Socrate, soit environ de moins 600 à moins 400 avant notre ère.
Et pourquoi on dit que c'est Socrate qui est le père de la philosophie ?
Parce que son enseignement, bien qu'il ait été exclusivement oral, son élève Platon s'est chargé de rédiger des dialogues qui ont transmis la pensée de son maître. Socrate a en quelque sorte formalisé la dialectique, cet art du dialogue qui selon lui est la meilleure forme de raisonnement possible, celle qui permet la maïeutique, c'est-à-dire de faire accoucher les esprits de la vérité. C'est donc cette forme de dialogue que l'histoire retient comme la forme de l'activité philosophique par excellence et qui fera passer de là à la postérité nombre des philosophes de l'Antiquité les plus célèbres après Socrate, tels qu'Aristote, Platon, qui en sont vraiment les plus célèbres successeurs. Et bien sûr, c'est par là que toute l'histoire de la philosophie, jusqu'à la pratique de la discipline aujourd'hui, trouve sa tradition. Les pensées pré-socratiques qui nous sont parvenues demeurent des formes de pensée plus fragmentées, moins développées, et nombre d'entre elles n'ont pas traversé l'histoire. Alors imaginez, par là-dessus, la pensée des femmes. Il existe de véritables difficultés, d'abord historiques, pour savoir qui étaient les femmes philosophes à l'Antiquité et ce qu'elles ont légué de leur pensée. Nous avons relativement peu de traces, en bien que la philosophie ait été un domaine de l'Antiquité qui semble avoir été plus favorable aux femmes que ne l'ont été la politique, l'art, le théâtre ou encore les mathématiques. Nous disons qu'il était complexe de pouvoir citer les premières femmes philosophes, alors qu'une forme de paternité de la philosophie fait plutôt consensus autour de la figure de Socrate. La philosophie aurait donc une paternité, ça c'est acté par l'histoire, mais Ne peut-on pas envisager que la discipline aussi est une forme ou une figure de maternité? Et face à cette difficulté que l'on a à même l'envisager ou à se le figurer, on peut peut-être retenir trois raisons. Trois raisons à cette difficulté, alors il y en aurait certainement bien plus. Je ne prétends pas résumer toute la complexité de cette question ici. La première raison, déjà, c'est que, comme nous le disions, l'histoire a peu et souvent mal retenu ce que la philosophie a pu produire avant Socrate. Et justement, avant Socrate, on a un personnage qui a laissé de la place aux femmes, notamment dans son école. Et ce personnage, c'est Pythagore, qui était un réformateur religieux et philosophe, savant mathématicien que nous conseillons, que nous connaissons, pardon, d'ailleurs, surtout pour ça, oui. Même si on est sans doute nombreux à avoir oublié son fameux théorème, hein, n'est-ce pas, Annie?
C'est exactement ce que je me dis à chaque fois que j'entends parler de lui, et je me dis, ouais, il faudrait que je retravaille de ce sujet. Est-ce que c'est pas si compliqué, mais ça me paraît très lointain.
Tout à fait, je serais incapable de redonner le théorème, même si parfois j'ai des élèves qui me le soufflent, je l'oublie aussitôt. Donc Pythagore avait ouvert son école aux femmes parce qu'il aurait préalablement rencontré Aristocléia, prêtresse de Delphes, qu'il admirait et dont il aurait enseigné les préceptes. On ne trouve aujourd'hui que des mentions dans les écrits de Pythagore sous plusieurs noms de l'influence qu'Aristocléia aurait eue sur lui. Mais pourtant une influence pas des moindres. Deuxième raison pour laquelle il est sans doute difficile de se représenter et de connaître quelles étaient les femmes philosophes à l'Antiquité, c'est que, comme on a peu de connaissances de cette période, beaucoup de fantasmes viennent remplacer les connaissances. Par exemple, il y a un nom que parfois on a entendu dans notre inconscient collectif, hein, notre histoire ou notre culture générale collective, c'est le nom d'Aspasie. Aspasie était la compagne de Périclès, qui, selon les écrits des successeurs de Socrate, aurait été très estimée par lui et aurait eu une influence sur la vie politique de son époque, une influence importante. Pourtant, elle a été considérée ensuite par les écrivains grecs et certains historiens même contemporains comme une simple courtisane. Alors que, a priori, aucun fait ne vient remettre en cause sa participation à la vie politique d'alors. Et dans ce mélange entre fantasme et connaissance, il n'est pas rare aussi que pour mentionner la première femme philosophe, il faille pousser le curseur de l'histoire jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ avec Hypatie. Hypatie est une philosophe néoplatonicienne, donc dans la lignée de Platon, successeur lointaine de Platon, qui a été astronome et mathématicienne également, femme de lettres, femme de science donc. Elle est à la tête de l'école néoplatonicienne d'Alexandrie au 4e siècle, au sein de laquelle elle enseigne la philosophie et l'astronomie. C'est la première mathématicienne dont la vie est bien documentée, notamment à cause de sa mort tragique, car Hypatie a été assassinée par les chrétiens. Du coup, on ne retient d'elle, souvent on la réduit à l'image d'une martyre de la philosophie, sans trop savoir, au-delà de son travail de mathématicien, ce qu'elle a pu engendrer comme pensée philosophique. Et la troisième raison pour laquelle je m'arrêterai pour justifier peut-être la difficulté de connaître les femmes philosophes de l'Antiquité, c'est que l'on voit ces femmes, quand on entend parler d'elles, quand on lit leur nom, même lorsqu'elles ont influencé des hommes que l'histoire a retenus, et même quand elles ont été chefs de file d'un courant, ce sont toujours leurs pères, leurs frères, voire leurs fils ou petits-fils, qui se trouvera être garant de leurs pensées ou de la transmission très partielle de leurs écrits. C'est le cas, par exemple, d'Arrêté de Cyrène. Alors, Arrêté de Cyrène était très proche de Socrate grâce à son père. Son père qui l'a formée, elle aussi, avant qu'elle ne développe son propre système. Sa pensée sera développée complètement par son petit-fils, qui est le véritable fondateur de l'école cyrénaïque. Une école, finalement, qui était partisan d'un courant qui célébrait le plaisir, un courant hédoniste, et qui propose une théorie originale du langage. Mais donc, cette femme, Arrêtée, a joué un rôle capital dans le développement de cette école, Mais alors qu'elle a notamment enseigné durant plus de 30 ans, qu'on lui attribue de nombreux ouvrages, elle est retenue comme étant celle qui a fait le lien entre l'enseignement de son père et le développement d'une école par son petit-fils. On ne retrouve aucune mention d'elle dans les grands repères de l'histoire de la philosophie, lorsque l'école cyrénaïque pour laquelle elle a tant œuvré est mentionnée. Si je regarde les manuels des étudiants ou même les bibliographies des enseignants de l'histoire de la philosophie enseignées aux étudiants aujourd'hui, on ne trouve aucunement mention de ces femmes. Le souci, dès la formation de la démocratie athénienne, c'est la place auquel les femmes vont être cantonnées, déjà à l'époque, et qui a durablement marqué l'histoire. Car elles étaient, semble-t-il, plus libres d'exprimer leurs pensées et de leurs choix de vie avant la mise en place de l'ordre social et politique d'Athènes. Dans cette ère, nouvelle ère politique, seule la sphère religieuse et rituelle leur était ouverte. D'ailleurs, l'histoire de la philosophie est tout à fait rattachée à l'idée du développement de la discipline en même temps que celle de la notion de citoyen. La figure du citoyen, c'est celle de l'homme libre, au sens masculin du terme, qui va être capable de philosophie, c'est-à-dire de créer des catégories, des idées, des concepts pour penser le monde et sa réalité. Loin de l'idée, donc, que les femmes puissent participer à la vie citoyenne. Quand on sait ensuite les siècles et les siècles qu'il faudra pour que les femmes obtiennent un accès aux urnes, on comprend partiellement d'où vient l'histoire et comment elle a pu marquer la vie sociale et politique jusqu'à nos propres siècles. Et si on peut dire que le hasard de l'histoire existe, il rencontre néanmoins toujours des choix, des idées, des passions humaines. C'est ainsi que se constitue l'histoire. Et on doit à des formes politiques, sociales et culturelles la place qu'occupe dans l'histoire telle au masculin ou telle au féminin. Et la portée de certaines idées et théories dans un contexte propice ont de radicales et durables conséquences. Parmi les théories misogynes qui visaient la disparition, entre guillemets, des femmes dans la vie publique et intellectuelle à l'Antiquité, on doit notamment à Aristote l'invention en quelque sorte de la notion de sexe faible. Dans plusieurs traités portant sur les animaux, qui incluent bien sûr l'animal humain, dont l'histoire des animaux, au IVe siècle avant Jésus-Christ, Aristote construit une véritable théorie du corps féminin qui viendra justifier, selon lui, le rôle domestique auquel les femmes doivent se consacrer exclusivement. D'après lui, le sexe féminin est génétiquement inférieur au sexe masculin en raison d'un développement embryonnaire imparfait et inachevé. Elle est un simple réceptacle passif qui apporterait non pas de la semence mais une matière inerte et moins élaborée qui la rendrait impuissante à concevoir la vie. Dans sa théorie, c'est donc à l'homme que revenait le pouvoir créateur, la femme n'y exerçait qu'un rôle mineur, inférieur. Mais aussi, il poursuivra l'idée d'Hippocrate, qui, au siècle précédent, a écrit que les femmes sont froides et humides, alors que les hommes sont chauds et secs. Et cette façon de formaliser la différence entre les sexes va déterminer les représentations médicales des siècles futurs, jusqu'au Moyen-Âge et même la Renaissance.
J'ai l'impression que s'appuyer sur des mythes biologiques, c'est jamais bon signe.
Et effectivement, on est même sur un mythe biologique qui a tellement tardé dans l'histoire que quelques années, quelques siècles après Aristote, on entendra à partir de ces particularités anatomiques de l'homme et des femmes que finalement les ovaires des femmes sont le développement inversé des testicules des hommes. Et donc, cette inversion anatomique s'expliquait, selon Aristote, par un manque de chaleur naturelle à la physiologie féminine. Et ce qui nous intéresse ici, c'est que depuis Aristote, la chaleur était tenue pour être une source d'intelligence. Et l'humidité, en revanche, pour ce qui activait la déraison. C'est toute une culture savante qui a été alimentée ainsi par ce mythe autour de la féminité. Alors que Platon déjà considérait le féminin comme inférieur, les femmes comme étant des hommes manqués, et c'était le cas dans le contexte global de l'Antiquité à l'époque. Mais Aristote a vraiment théorisé l'idée que la femme est une version imparfaite et inachevée de l'homme. Et puis effectivement, comme tu le dis, les mythes biologiques ont parachevé l'ensemble pour tous les siècles et les siècles suivants.
Ouais, et que ce soit des mythes qui ont pu être préjudiciables pour les femmes, ou bien pour tout ce qui va être racisme, toutes les personnes non blanches, enfin, ça peut être des mythes aussi qui ont été utilisés comme ça.
D'ailleurs, on rapporte et on croise souvent, parce que c'est le cas dans les traités d'Aristote, le parallèle qu'il peut faire, en tout cas le recoupement des imperfections du féminin qui font que les femmes sont plus proches de l'esclave ou de l'animal que de l'homme au sens masculin du terme. Donc déjà à l'époque, on croisait la misogynie entraînait aussi tout un tas de figurations, de représentations des inégalités entre les hommes, entre les êtres humains. Alors certes, de la philosophie grecque de l'Antiquité, nous n'avons que des traces partielles, notamment souvent des mentions de textes ou des personnes et de leur rôle dans la vie intellectuelle, scientifique, politique de l'époque, ce qui fonctionnait d'ailleurs souvent ensemble, de façon liée. La majeure partie des œuvres des hommes et des femmes de ces siècles-là ont été perdues. Quasiment tout ce que l'on connaît des œuvres et des personnages de l'époque nous a été transmis par leurs successeurs. Et les femmes semblent avoir été oubliées dans ce référencement, même quand on sait qu'elles ont existé et qu'elles ont joué un rôle majeur dans le développement d'une école philosophique ou mathématique. Peu de soins semblent avoir été faits de leurs œuvres, comme si elles contenaient peu de théories déterminantes. Et pour celles dont on dispose encore de textes, d'extraits de textes, ils ont été peu ou pas reproduits car ils n'apparaissent comme s'ils apparaissaient d'office comme secondaires dans l'histoire de la philosophie. Et ce n'est plus une chose même que la philosophie interroge vraiment. Comme si la place des femmes en philosophie à l'Antiquité, donc à la naissance, aux fondations de la discipline, n'aurait pas pu être différente. Comme si cette absence se résumait à un constat de fait et avait valeur de vérité sur l'absence d'originalité et d'intérêt des textes et des pensées de ces femmes. Si tu me permets, Annie, j'avais envie de lancer un petit appel.
Oui.
Très rapide, pour dire simplement à ceux qui nous écoutent que vous pouvez envoyer vos remarques, vos questions, les thèmes dont vous avez envie d'entendre parler dans cette chronique, sur une page Facebook, qui est la page du Croc Philo. Si vous écrivez Croc Philo avec l'apostrophe entre les deux, vous tomberez sur la page et vous y trouverez notamment le lien vers le podcast de l'Oreille Curieuse de Radio G.
Génial, et on mettra en lien la page Facebook de Croc Philo sur le podcast de Radio G.
Voilà, d'accord.
Donc on peut proposer plein d'idées de philo, génial. Ouais. Merci beaucoup Émilie.
Merci Annie.
On se retrouve dans 2 semaines avec le prochain Croc Philo. Moi ça m'a fait penser à... Tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'est bon pour moi.
Ça me faisait penser au livre que je lis en ce moment, toutes ces questions. Je lis Un lieu à soi, qui est aussi traduit par Une chambre à soi. C'est le célèbre essai de Virginia Woolf, qu'elle a publié en 1929 et qui aborde beaucoup ce sujet de la place des femmes dans la littérature. On n'est pas que sur la philosophie, mais je le recommande vraiment, je vous encourage à le lire après avoir écouté cette chronique, en écoutant cette émission. Je le trouve à la fois très drôle, très actuel, et puis très fort, et puis très vivant, quoi.
Tout à fait. On pourra d'ailleurs imaginer une autre chronique dans l'année sur les liens entre la littérature et la philosophie. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup les femmes dans ce lien entre les deux disciplines, dont Virginia Woolf, évidemment.
Il y a plein de choses à partager.